Amis auditeurs, bonjour et merci de nous retrouver en ce dimanche matin. Et ce matin, nous retrouvons le père Olivier Poquillon, qui nous avait parlé dans une dernière émission de son ordre, l'ordre fondé par Saint Dominique. Père, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous allons continuer un petit peu sur ce ministère dans l'ordre dominicain que vous avez évoqué un tout petit peu dans notre dernier entretien. Quelles ont été alors les étapes vraiment de les différents lieux où vous avez eu l'occasion d'être en mission?
Alors en mission, les lieux ont été multiples, hein, puisque l'ordre des prêcheurs, hein, ce qui est notre nom officiel, les dominicains, est présent dans 125 États. Une bonne partie de mon activité a été liée aux conflits armés ou aux relations internationales. Ça m'a conduit d'abord à être aumônier militaire. J'ai été ordonné diacre alors que j'étais aumônier militaire et prêtre dans l'aumônerie militaire. Donc mes premières confessions, c'était dans le cadre d'une opération extérieure, en zone de guerre. Hein, ce qui donne après quelques réflexes un peu étranges pour les paroisses. Mais voilà. Et puis j'avais déjà fait des études dans le domaine juridique et j'étais spécialisé dans le droit international public. Alors ça paraît être un gros mot, on se dit mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce que c'est mieux que le droit local? Ben non, c'est juste le droit des relations entre les États. La règle du jeu, comme quand on joue aux cartes, il faut une règle du jeu. Eh bien, entre États, il faut des règles du jeu. Parce que si on n'a pas de règles du jeu, eh bien, c'est la guerre. Donc, l'intérêt de cet apostolat, hein, qui m'a été confié par l'ordre, ça a été de faire le lien entre, d'une part, une approche très pratique en accompagnant nos troupes, y compris des soldats océaniens, hein, qui étaient très présents, notamment dans l'aumônerie militaire, sur le terrain, que ce soit en Afrique, au Proche-Orient ou dans les Balkans, et puis de défendre un certain nombre de dossiers auprès des Nations Unies, où j'ai été membre de la délégation, puis représentant permanent de l'ordre auprès de l'Organisation des Nations Unies.
Alors justement, on est en droit de se demander, d'ailleurs je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent découvrent que l'Église est présente aux Nations Unies. C'est nouveau ?
Ça n'est pas nouveau, en fait. On peut dire même que nous sommes les pionniers dans ce domaine, puisque si vous allez au siège de l'ONU à New York ou au siège de l'ONU à Genève, qui s'occupe de toute la partie humanitaire, santé, droits de l'homme, réfugiés, eh bien, vous avez Francisco de Vitoria, donc un frère d'origine espagnole d'ailleurs, qui est considéré par les États comme le père du droit international. Donc on a un frère dominicain, pas seul, on a eu aussi même des jésuites, hein, qui vont développer ce droit international, cette règle du jeu entre États. Et les États s'approprient la règle du jeu. Parce que, encore une fois, sans règle du jeu, eh bien, c'est le conflit qui prend le dessus. Alors, on peut se poser la question aussi, mais à quoi servent les Nations Unies ? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ici, sur le Caillou, on a vu de près ce qui s'est passé au moment de la catastrophe au Vanuatu.
Hein, et le cyclone Pam.
Le cyclone, oui. Et donc l'image de l'ONU n'est pas forcément excellente. Beaucoup reprochent aux Nations Unies, en tout cas en Afrique, et en Asie, et en Amérique latine, je ne sais pas encore si c'est le cas en Océanie, d'avoir des gros 4x4 blancs, de foncer à travers les villages et de ne jamais en descendre. Alors, l'ONU, ça n'est pas parfait, mais l'ONU, c'est ce que nous en faisons. Comme son nom l'indique, c'est l'Organisation des Nations Unies, c'est un club d'États. Il y a 193 États membres, dont la France. Hein ? Chaque membre du club a une voix à l'Assemblée Générale et peut donc décider que le club va faire un certain nombre de choses, ou pas. Ça dépend si on paye sa cotisation ou pas. D'accord ? Donc c'est comme dans n'importe quel club, dans un village, dans une tribu, hein, ce sont les membres du club qui prennent les décisions. Après, on a d'autres acteurs, les employés du club. Le plus fameux, c'est Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Il n'est pas le chef de l'ONU, il est le principal exécuteur des décisions prises par les membres du club. Et puis il y a les invités du club, qui sont, par exemple, des observateurs. Parmi les observateurs, on a le Vatican, hein, qui est un État, à proprement parler, et puis on a des organisations qui ne sont pas des gouvernements, des universités, des syndicats ou des ordres religieux. C'est le cas des dominicains et c'est aussi le cas de la famille Mariste, qui a un bureau donc à Genève.
Voilà. À quoi ça sert d'être là si on est juste là pour observer ?
Alors, observateur, hein, c'est un titre qui dit que, en fait, vous ne payez pas de cotisation. Mais les négociations se font d'abord dans les couloirs, c'est-à-dire qu'on va rencontrer les gens, d'abord les gens qui ne pensent pas comme nous, et puis on va essayer de les convaincre. Hein, de les convaincre.
Et ça marche ?
Alors ça marche. Les gens nous disent, mais c'est du lobbying. En fait, vous allez défendre les intérêts des chrétiens contre les autres. Non, ça n'est pas notre boulot. Parce que l'approche chrétienne, c'est de travailler pour le bien commun. Et ça, que ce soit en politique nationale ou internationale, eh bien, la recherche du bien commun est au cœur de l'enseignement social de l'Église. La foi chrétienne, c'est que tous les hommes sont appelés au salut. Et que donc, c'est ensemble que nous sommes sauvés. Alors concrètement, ça veut dire que nous allons prendre à partie les États quand il y a des dysfonctionnements, des crimes commis sur le terrain, des injustices, ou alors eh bien, promouvoir de bonnes pratiques et essayer par exemple d'obtenir une convention internationale qui va protéger, alors ça peut être des ressources, ça peut être aussi promouvoir l'éducation, promouvoir la santé, voilà, et faire en sorte que tout le monde puisse exercer son droit à la santé.
Vous êtes en quelque sorte un défenseur des droits.
Oui, c'est un des rôles des organisations religieuses auprès des Nations Unies. Tout en se souvenant qu'il y a deux types de représentations de l'Église. Il y a d'une part les organisations non gouvernementales, hein, les ordres religieux, les familles religieuses, qui vont avoir une expérience de terrain souvent assez vaste. Et puis, d'autre part, il y a le Saint-Siège, c'est-à-dire le Vatican, hein, qui va, lui, avoir une posture beaucoup plus d'État, parlant d'égal à égal avec les autres États. Quand on demandait, à une époque, Staline demandait, le Vatican combien de divisions ? Et on nous pose souvent la même question. Mais vous, quelles sont vos forces ? Notre seule force, c'est la conviction et l'expérience de terrain. Et notre capacité à transformer l'expérience de terrain en vocabulaire audible, compréhensible par un diplomate.
Oui, alors est-ce qu'il vous arrive d'avoir affaire à des gens qui sont vraiment violemment anticléricaux ou contre l'Église ou qui n'acceptent pas cette présence ou cette discussion avec les hommes d'Église ?
Ça arrive assez rarement, en fait. Les clivages ne sont pas là où on les attend. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'entendre avec des musulmans. On voit souvent que les religieux, quelle que soit leur religion, ont souvent des approches communes. C'est plus le statut de la personne, hein, qui est en question. Et là, on voit que il ne s'agit pas de savoir si on est un État du Nord ou du Sud, de l'Est ou de l'Ouest. C'est vraiment la place qu'on donne à la personne humaine qui fait la différence. Avec tous les gens qui pensent que la personne humaine doit être au centre des politiques publiques, nous pouvons travailler. Avec ceux qui ne pensent pas cela, nous devons travailler pour les convaincre.
D'accord. Et là, nous parlons de l'Église catholique. Est-ce que les autres églises ont aussi des représentants ? Ou les autres religions ?
Oui, on trouve des représentants des autres confessions chrétiennes, hein, notamment les orthodoxes et les protestants, mais chacun selon son organisation propre.
D'accord.
Pour les orthodoxes, ce sera beaucoup plus lié aux États. Pour les protestants, ce sera plus sous une forme de fédération, mais de façon plus, on va dire, plus composite. Alors, pour les autres religions, il n'y a pas de parallélisme. C'est-à-dire que quand on veut discuter avec les musulmans, eh bien, on a la Ligue arabe qui nous répond, un groupe d'États.
D'accord. Eh bien, on pourrait continuer à parler pendant des heures de ce sujet, mais malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup, Père Olivier Poquillon, de nous avoir parlé de cette présence de l'Église dans les institutions internationales. Nous vous retrouverons très bientôt, et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, et merci aussi à nos fidèles auditeurs, à qui nous souhaitons une très bonne journée, qui commencera peut-être avec l'écoute toujours sur cette même radio de la messe de radio diffusée. Et puis, nous vous retrouverons, quant à nous, dimanche prochain pour un autre entretien. Au revoir et à dimanche.